l'instant addicto.
Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons nos émissions sur l'alcool avec le docteur Bodin pour ce mois de janvier.
Pour continuer sur ce débat par rapport à l'alcool, l'alcoolologie, on se rend compte, on a des familles en souffrance. On peut avoir un compagnon ou une compagne en souffrance, une famille qui ne sait pas quoi faire à un moment donné, entre guillemets, hein, d'une personne qui consomme beaucoup. Pour ça qu'en termes de quantité, qu'on soit en fonction de notre état physiologique, on ne va pas supporter l'alcool de la même façon. Mais voilà, c'est ça qui est compliqué. C'est que je pense pour beaucoup de personnes qui ont l'habitude de beaucoup consommer d'alcool dans la culture viticole en France, et je vois beaucoup aussi au niveau du sud Vienne, à un moment donné ça perd le contrôle, et certaines personnes, on sait très bien aussi quand on parlait de dépendance lors de la spécificité des addictions dans notre première émission en octobre dernier, c'est que des personnes qui vont boire facilement 5 verres à midi, 5 verres le soir, voilà, on ne devient pas non plus alcoolo-dépendant parce que forcément on se met à boire, mettons sa petite binouze à 10h du matin parce qu'on a une tolérance qui a été élevée et qu'on a une capacité à supporter beaucoup de l'alcool. Donc c'est vrai que le repérage est quand même très très compliqué, même si maintenant on a des petits questionnaires, on voit les équipes qu'on appelle les équipes ELSA dans les milieux hospitaliers qui sont là pour faire le lien dans les différents services, pour repérer les personnes qui ont un problème avec l'alcool, surtout dans les services gastro, on les repère beaucoup. Voilà, ça reste quand même compliqué, et que dire à ces familles, hein, où on souhaite recevoir des aidants, entre autres aussi en alcoolologie ce mois-ci, mais de leur dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand les dommages sont entre guillemets collatérales et que la personne est en souffrance et met en souffrance tout le monde.
La question de la quantité bue est effectivement pas très informative. Je dirais boire un verre pour une même personne en fonction du moment, boire 5 verres de whisky au travail et 3 verres, parce que c'est vrai que 5 verres ça fait quand même pas mal, surtout si c'est des verres maison et pas des verres bistrot. Oui. Mais boire quelques verres d'alcool au travail et quelques verres d'alcool le samedi soir quand en plus je suis à la maison, effectivement c'est pas la même chose. Boire un verre d'alcool quand j'ai 7 ans et boire un verre d'alcool quand j'ai 28 ans, c'est pas la même chose. Donc, c'est des exemples un peu caricaturaux pour dire que la quantité n'est pas forcément informative. Et ça me fait penser aussi que, par rapport à cette question quantité, on a longtemps cru que le zéro alcool, l'abstinence, c'était le seul salut pour plus que cet alcool abîme les relations au sein de la famille, abîme les relations au sein du travail, me rende moins vigilant au volant. Et on s'est longtemps trompé au sein des accompagnants en ne proposant que l'abstinence, que le zéro alcool. Et je suis certain qu'il y a certains patients qui n'arrivaient plus à trouver la bonne distance avec l'alcool parce qu'on leur proposait exclusivement le zéro alcool et qui faisaient un yo-yo perpétuel hyper dévalorisant, hyper dévalorisant, où ils se sentaient moins que rien. Et d'ailleurs, cette question de dévalorisation avec l'alcool est centrale parce que qui n'a pas bu de temps en temps, personne. Et donc, perdre le contrôle de son boire, c'est perdre quelque chose que beaucoup ont, et donc c'est pour ça que c'est très très dévalorisant. Et puis surtout qu'en plus on nous dit qu'il faut zéro boire, et donc ça va nous obliger à pas boire, et donc quand je vais reboire, je vais avoir l'impression d'être en échec par rapport à cet objectif, et donc cette question de dévalorisation, de honte, est vachement importante dans l'alcool.
Vous avez choisi comme morceau musical l'étude numéro 6 de Philippe Glass, interprétée par le jeune Víkingur Ólafsson. On écoute.
Ouais, je rebondis sur ce que vous dites. Je pense que c'est ce qu'on appelle, nous, en addictologie, la réduction des risques. Elle est très, très importante. Elle est arrivée en 95, après la crise du sida, auprès des toxicomanes, où on n'était pas là. On n'est pas là en addictologie pour juger les personnes, et qu'en toxicomanie, on leur proposait des kits de seringues pour pas qu'ils se transmettent, le sida. Et je pense que l'alcoolologie, c'est pas vieux, hein, je crois, docteur Benin, c'est arrivé il y a à peu près une dizaine d'années, où c'était pas le zéro abstinent, comme on peut le rencontrer chez les alcooliques anonymes qui font un travail extraordinaire d'accompagnement, mais que la personne, est-ce qu'elle peut contrôler sa consommation ou réduire sa consommation et ne pas s'empêcher de continuer à boire. Je pense pour certaines personnes, de réduire la consommation, ça fonctionne très bien. On se rend compte que pour d'autres, c'est vraiment difficile. Mais comme vous le dites aussi, on peut rester abstinent certaines années. Et peut-être après, en ayant bien travaillé peut-être sur soi et s'étant questionné par rapport à la place du produit, trouver une meilleure distance et pouvoir reconsommer en étant beaucoup plus modéré.
Ou inversement, au début... ne pas pouvoir imaginer qu'on passe au zéro alcool, parce que tout simplement on peut pas se projeter dans le temps au-delà de quelques temps, hein, ça c'est humain, et donc peut-être passer par des périodes de consommation, non consommation, et puis après, avec cette distanciation, je dirais, possible, peut-être en yo-yo au début, eh ben, c'est le zéro alcool. Je crois que, je dirais, le mieux placé pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'alcool puisse prendre problème, c'est le patient qui sait. Alors, peut-être qu'il ne sait pas, mais c'est lui qui va guider. Et peut-être même, je dirais, que celui qui consomme doit... aussi en parler avec l'entourage, parce que cette question de, je dirais, cette fascination autour de l'abstinence, elle est vachement prégnante dans l'entourage, parce que si la personne addicte qui boit de l'alcool de trop souffre, l'entourage souffre aussi, différemment, mais aussi, et sans doute aussi intensément, et que savoir si, pour plus que l'alcool dans ma vie ne pose plus de problème, s'il faut que je passe au zéro alcool ou au moins boire, ou autrement boire, je crois que c'est de réinstaurer un dialogue... devenu impossible d'ailleurs, un dialogue entre celui qui boit et celui qui et l'entourage qui vit autour de celui qui boit. Et je me souviens un ami qui avait dans sa famille très proche, je dirais, des personnes devenues addictes avec l'alcool. Je lui avais dit que en fait la problématique addictive avec l'alcool, c'est une maladie contagieuse. Si je dirais la personne qui boit de trop souffre, celui qui vit avec la personne qui boit de trop souffre aussi, et va, je dirais, lui-même, cet entourage, décrire des mécanismes d'addiction, mais non pas centré sur un geste de boire, pas boire, moins boire, trop boire, mais sur la relation qu'il va élaborer avec son conjoint, par exemple, si on prend le modèle du couple, et si, de manière caricaturale, le consommateur est dépendant au produit, le buveur est dépendant addict à l'alcool, son entourage proche, son entourage affectif, et devient addict ou dépendant, addict à celui qui boit, et c'est ce qui fait que ça complexifie les solutions à trouver. C'est que c'est maintenant un groupe qui a des mécaniques addictives, et donc c'est une problématique de couple, une problématique systémique, comme on dit dans le langage thérapeutique.
Exactement, la systémie nous apprend beaucoup par rapport à ça. Mais oui, on en reparlera à la fin du mois de janvier au niveau de la prise en charge. Hein, j'ai souhaité un focus par rapport à cette prise en charge en alcoolologie beaucoup plus particulière par rapport à la prise en charge qu'on fera au mois de juin prochain sur toutes les addictions. Et par rapport à ça, je me disais, on sait par rapport aux différents addicts que l'on peut croiser au niveau de l'alcool, il y a quelque chose qui est vraiment inhérent à la maladie en alcoolologie, c'est vraiment la notion de honte. Je la trouve très très forte au niveau de la honte et du mépris qui est ressenti en alcoolologie. C'est pas toujours évident de les prendre en charge au niveau des alcoolos dépendants, et cette honte est vraiment inhérente à leur personnalité. On a toujours l'impression de frontières qui sont complètement dissolues comme le produit, et de personnes qui ont tellement honte de façon ontologique et métaphysique par rapport à leur être, qu'elles veulent se glisser à travers le produit, qu'elles veulent se glisser, qu'il n'y ait plus du tout de frontières et ressembler à tout le monde. Je dis souvent qu'il y a non, et on connaît, hein, en alcoologie, il y a non-différenciation par rapport à l'autre. Comme si la personne, il y a tout ce travail de reconstruction, on verra au niveau de la prise en charge, de reconstruction identitaire qui est nécessaire pour la personne quand elle est tombée dans ce liquide qui était très très bon au départ. C'est ivresse, c'était excellente. Et après, c'est un peu plutôt l'enfer.
Oui, quand on boit trop, on ne sait plus qui est qui. Tout est fluidifié. Et effectivement, là, la question de la honte arrive très facilement et englue, cristallise après. Et ce qui fait que mettre des mots sur tout ça devient difficile. Et c'est souvent justement auprès de ceux qu'on aime, auprès de qui on n'arrive plus à mettre des mots à cause de cette question de la honte. C'est pour ça qu'il faut... Il faut trouver des tierces personnes, de l'entourage professionnel ou pas, hein, je dirais, qui puissent, je dirais, relibérer ça, réaérer cette relation qu'empêche la honte.
Merci docteur Bonin, à la semaine prochaine. L'instant addicto.